Tom, j'espère que Hanouka s'est bien passé. Et on retourne dans notre étude de la parachat à Shavua. Et ce soir, une étude qui va mêler deux sujets. Notre parachat, évidemment, parachat de Vayigash. Et également, l'autre sujet qui est directement lié à parachat de Vayigash, parce que il va pratiquement tous les ans tomber, soit juste avant, soit juste après, le Shabbat de Vayigash. À savoir, Asara Betevet. On va voir que les deux sont intimement liés. Alors, la parachat Vayigash, c'est d'abord et avant tout le troisième volet d'une histoire à rebondissement. L'histoire de Yosef et de ses frères, c'est une histoire en veux-tu, en voilà. Qui est le bon et le méchant dans l'histoire? C'est pas très clair. C'est-à-dire que c'est trop facile d'appeler les frères de Yosef les méchants de l'histoire et le pauvre Yosef. C'est un peu plus compliqué ça. Et dans notre parasha, on arrive à la fin de l'histoire. Une fin digne d'un véritable film hollywoodien. Quand il se dévoile à ses frères, je suis Yosef, et tout le monde pleure, et j'imagine que dans le film, il y a de la musique à ce moment-là. Tout se passe bien. C'est marrant. Le seul problème, c'est que ces retrouvailles, et finalement l'histoire se termine bien, et papa y revient, et il retrouve Yosef. Seulement, tout se fait sur fond d'exil. Pour se retrouver, il va falloir descendre en Égypte. Et on va voir que notre paracha, qui vient clore l'histoire de Yosef et de ses frères, qui vient amorcer la fin du livre de Bereshit, eh bien, l'enjeu de cette paracha est directement lié avec Asara Betevet. Je vais commencer par Asara Betevet pour revenir à notre paracha, pour que vous compreniez bien quel est cet enjeu qui est mis en place. Alors, d'abord, on va se mettre tous d'accord, le jeûne d'Asara Betevet, c'est le plus facile de tous les jeunes. Parce que plus court, tout simplement. D'un autre côté, dans les faits, c'est peut-être le moins suivi de tous les jeunes. Peut-être avec celui de Guédalia aussi, même si le jeune de Guédalia a des vertus thérapeutiques après deux jours de Rosh Hashanah, et des fois trois jours quand c'est la Shabbat direct. Donc bon. Mais le jeune du Ditéved, il n'est pas tellement ancré dans les consciences. Si je mets Yom Kippour mis à part, parce que Yom Kippour n'est pas un jeûne, c'est vrai qu'on jeûne à Yom Kippour, mais Yom Kippour est d'abord et avant tout un Yom Tov, c'est une fête, donc je mets Yom Kippour de côté. Si je vous demande quel est le jeûne le plus important de la liste des jeûnes, comme on dit, Tchabeb, comme on dit chez eux, Tisha B'Av, hein, comment tu dis ça? Tisha Bouf.
Hein,
c'est ça. Alors, vous l'appelez comme vous voulez. Tu fais le sondage. Tisha B'Av, c'est sûr que c'est le plus. Eh bien, non. Le jeûne le plus important de l'année, encore une fois, Yom Kippour mis à part, c'est le Ditev. Voilà. D'où je sors ça? Pourquoi je vous dis que c'est le jeûne le plus important de l'année? Et bien d'abord, pour répondre à cette question, il faut se poser une autre question. Comment je sais quand ça tombe le dit Tevet? Comment je fais? Comment je sais quand c'est le dit Tevet? Comment savoir que c'est marqué pour Jean? On compte sur ses doigts quoi, combien?
10.
Depuis? Depuis Rosh Chodesh. Bien fait. Là, c'est pas très compliqué. On compte depuis Rosh Chodesh, on compte 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Et dès qu'on arrive à 10, c'est le dit à bête. Bien fait. Mais comment tu sais que c'est Rosh Chodesh? On regarde la lune. Qui a dit ça? Mais ça, c'est parce que vous êtes trop de syndicats. Eh oui, c'est parce que vous êtes trop dans un monde idéal où il y a encore le Beit HaMikdash. Ben oui, parce qu'effectivement, à l'époque du Beit HaMikdash, comment on sait quand c'est Rosh Chodesh? Dès qu'on a vu la nouvelle lune, il y a des témoins qui viennent au Beit HaMikdash, qui disent on a vu la lune, boum, Rosh Chodesh. Seulement aujourd'hui, c'est pas la lune qui détermine Rosh Chodesh. Aujourd'hui, celui qui détermine le Rosh Chodesh, c'est le frigo.
Le frigo.
Eh oui, parce que dans toutes les maisons, le calendrier est sur le frigo. Eh bien sûr. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous rigolez, mais aujourd'hui, je peux déjà, en deux clics sur Internet, vous dire quand va tomber Rosh Chodesh Tevet et le dit Tevet de 2027. Alors que vous imaginez bien qu'à l'époque, on fait ça à Pia Reia, on attend de voir la lune, ben je ne peux pas savoir. Bon, alors d'accord, je vis dans une réalité malassote où c'est Alpi à calendrier. Besset. Mais une fois, alors comme on a fait ce calendrier, on a fait un calcul mathématique. Maintenant, dans ce calcul mathématique, il faut savoir que Chazal y ont glissé des trikim. Trikim en français, ça veut dire des astuces, des trucs pour nous faciliter la vie. Par exemple, eh bien, on a fait en sorte que le dit Tevet ne tombe jamais Shabbat. Ça ne tombera jamais Shabbat. Ben, Sheila, il l'a. Eh bien, si jamais Tisha B'Av tombe Shabbat, comme c'est arrivé, je crois, non pas les dernières, mais ça arrive de temps en temps, qu'est-ce qu'on fait? On repousse. Si jamais Yom Kippour tombe Shabbat, qu'est-ce qu'on fait? On repousse pas, on jeûne. Mais bon, vous allez me dire, c'est Kippour. Ça va, il marche dans la Torah, il s'appelle Shabbat, Shabbaton, donc ça marche. Regardez ce que je vous ai mis dans la source numéro 2. Je vais directement à la 2, parce que c'est toujours mieux de commencer par le 2. Rabbi David Abu Dar'am. Rabbi David Abu Dar'am, Migdolé Arishonim Misfarad, nous dit, Vetzarich Atal Adat, dans son commentaire de la Tfila, il dit, Vetzarich Atal Adat, She'im Aynu Mekachim Lefi Areiya, c'est-à-dire que si on faisait encore Rosh Chodesh avec la lune, bah, si on fait avec la lune, les astuces ne marchent pas, parce que tu peux voir la nouvelle lune n'importe quel jour. Donc si tu peux la voir n'importe quel jour, le dit Tevet peut tomber également n'importe quel jour, y compris le Shabbat. Donc il nous dit, Vaïnou mekachim le fi areya, vetzom asara betevet ayachal be Shabbat, ayadoche et a Shabbat. Si le dit Tevet, alors aujourd'hui ça tombe pas Shabbat, on s'est dit parce qu'on a fait un truc avec un cul, machin. Mais si le dit Tevet tombait Shabbat, et Bezrat Hashem, on va revenir au Beth Amikdash et on va revenir donc à un état où on refera Rosh Chodesh à la lune. Ouais, c'est pas comme ça qu'on dit. Hein, le jour où on a le droit de faire le kibour, le cours en hébreu, vous me dites, ça me facilitera la vie. Dès qu'on pourra refaire Rosh Chodesh selon la nouvelle lune qu'on voit, alors peut-être ça tombera Shabbat. Et effectivement, Doré est à Shabbat. D'où est-ce qu'il apprend ça, Rabbi David Abu Dar'am? C'est pas lui qui décide. D'où est-ce qu'il sort ça? Eh bien, en fait, c'est une Xera Shava qui est étudiée dans le Talmud. Parce qu'à propos, c'est quoi le seul jeûne qu'on connaît qui dépasse Shabbat? On nous dit Yom Kippour. À propos de Yom Kippour, il est marqué dans la Torah Be'etzem Ayom Azeh. C'est le slogan qui est utilisé pour Yom Kippour. L'essence de ce jour-là, Etzem Ayom Azeh. Or, quand on nous parle du dit Tevet, regardez la source numéro 3, dans le livre de Yechezkel, on nous dit Ben Adam, Ketov Lecha et Shem Ayom, et Etzem Ayom Azeh. Donc, dans la mesure où le dit Tevet est appelé dans le livre de Yechezkel également, Etzem Ayom Azeh, eh bien nos sages du Talmud vont faire ce qu'ils savent faire, une Zera Shava, en disant, puisqu'il y a les mêmes mots là et mêmes mots là, eh bien on peut apprendre les mêmes halachot à certains niveaux, de là et de là. Et donc on va te dire, puisque Ayom Kippour, ça dépasse Shabbat, ça doche Shabbat, eh bien, le dit Tevet également, Doré Shabbat. Donc, c'est quelque chose qu'on ne vit pas au quotidien, parce que, encore une fois, notre calendrier est là, mais il faut comprendre que ça veut dire que le dit Tevet a un statut tout particulier. Il serait capable de dépasser Shabbat.
Mais on le vit au quotidien pour le vendredi. C'est le seul jeûne qu'on jeûne le vendredi, quand il tombe le vendredi.
Ah, voilà. C'est-à-dire que si il tombe le vendredi, voilà, on se fait. Même si, a priori, il n'y a aucun problème de jeûner un vendredi. Mais effectivement, on a l'habitude de... Alors que celui-là, quand on tombe le vendredi, déjà quand t'as fait en sorte de ne pas tomber Shabbat. Mais disons que les gens, ils se posent pas la question le vendredi. Ils disent, bon, c'est un vendredi. Il y a plein de minagim, d'ailleurs, de pas manger beaucoup le vendredi pour avoir beaucoup d'appétit pendant Shabbat. Mais ça, donc c'est déjà, il y a là. Mais il faut voir que ça va plus loin. C'est Shabbat. On jeûnerait pendant Shabbat. Alors, comment ça se fait que ce jeûne du dit Tevet est si important à tel point qu'il dépasserait Shabbat? Alors, j'ai une fâcheuse tendance dans la vie, c'est que lorsque je parle d'une fête juive ou d'un jour de commémoration juif, pour moi, ça ne peut pas être simplement du spirituel. Chaque fête, chaque jour de commémoration est d'abord et avant tout dû à un événement historique qui s'est passé. Vous êtes d'accord avec moi là-dessus?
Oui.
Tant qu'il n'y a pas eu d'événement historique, ce n'est pas une fête. Du moins, ce n'est pas obligatoire. Vous avez entendu présenter la future soirée de Tou Bishvat. Est-ce que si on ne fait pas la soirée de Tou Bishvat à Chiba, c'est une avéra? Oui, parce faut. On n'a déjà pas pu faire la soirée de Hanouka, j'ai entendu. Hein. Donc il faut faire la soirée de Tu Bishvat. Mais à la maison, si je ne fais pas Tu Bishvat, j'ai transgressé quelque chose? Non. C'est un minhag, Tu Bishvat. Un minhag de plus en plus répandu par Baruch Hashem, mais c'est un minhag. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas encore eu un événement qui a touché Klal Israël à Tu Bishvat qui a fait qu'on a décidé d'en faire une vraie fête. Tant qu'il n'y a pas d'événement, il n'y a pas de fête. Il n'y a pas de jour de commémoration. Donc, d'où vient ma question? Qu'est-ce qu'on symbolise, qu'est-ce qu'on commémore le 10 Alors, justement, pas. Parce que vous, ben oui, mais non, c'est pas parce qu'on le dit deux fois que ça marchera bien. C'est pas la première brèche. La première brèche, c'est le 17 Tammuz.
Le siège.
Alors, en fait, le dit Tevet, c'est trois choses. C'est pas une chose, c'est pas deux choses, c'est trois choses. Je vais aller dans le sens déchronologique. Je vais parler de ce qui est le plus récent pour aller au plus ancien, et ensuite on va comprendre de quoi il s'agit. Justement parce que le plus récent, c'est une décision. Et c'est ce qui la rend encore plus particulière, parce que les deux autres événements qu'on va citer... Il y a des choses qui se sont passées le dit Tevet, donc à la sorte ça s'est passé. Mais la dernière chose qu'on symbolise le dit Tevet, il ne s'est rien passé le dit Tevet, mais on a décidé que ça allait être le dit Tevet. Alors voilà, je voulais amener dans la source numéro 1, j'ai entendu, vous le savez. Le 27 qui se lève 1951, il y a quelques années, la Rabbanut Arachit l'Israël, je lis en hébreu, Bekav Zayn Bekislev Tavshin Yud Aleph, החליטה הרבנות הראשית לישראל לציין את יום עשרה בטבת בכל שנה כיום הקדיש הכללי. זה כל יום הקדיש הכללי. יום זה נועד לאפשר לקרובי הנספים בשואה, שיום פטירתם לא נודע, לנהוג במנהגי יום היורצייט של הנפטרים. להדליק נרות נשמה, לומר קדיש וללמוד משניות כדי לנשמות הנספים. על פי תקנת הרבנות הראשית, בבית הכנסת, בבית הכנסת לאחר תחילת התורה שבתחילת שחרית אומרים את תפילת אל מלא רחמים לזכר חללי השואה. En d'autres termes, quand Rabbi Nachman Israël en 1951 a décidé que le jour de la Shoah, ça ne serait pas Yom HaShoah, ça a toujours dérangé les rabbins, le Yom HaShoah. Pourquoi ça a dérangé les rabbins Yom HaShoah? Parce que c'est en Nissan. On ne fait pas de journée de deuil en Nissan. Donc ça a toujours dérangé, parce que Yom HaShoah c'est le 27 Nissan. Donc ça a toujours dérangé les autorités rabbiniques de dire que Yom HaShoah c'est en Nissan. Donc ils ont trouvé un autre jour. Seulement moi, si on m'avait posé la question, allez, choisis un jour pour commémorer les douleurs de la Shoah. Alors soit j'aurais pris un jour qui existe déjà, et donc si déjà Tisha B'Av, qui est vraiment un jour qui symbolise le deuil du peuple juif, les malheurs qui nous sont arrivés, ou alors j'aurais pris peut-être un jour où il s'est passé un événement dans la Shoah. Mais pourquoi le dit Tevet? Ils ont choisi sciemment le dit Tevet. La Mamaka. Ok? C'est la première raison au niveau déchronologique, c'est le Yom HaKadosh HaKlali. En d'autres termes, le dit Tevet, c'est pour la Shoah. D'accord? Je mets dans l'autre. La deuxième raison au niveau déchronologique, c'est donc 2200 ans, 2150 ans avant la Shoah, c'est une autre histoire. C'est. Bah regardez directement, je parle que je vous baravine, dans la source numéro 7 et 8. D'abord la 7, ensuite la 8. Qu'est-ce qui s'est passé le 10 Tevet? Eh bien, regardez. Betom Shivim Ushnaim Yamim, Simu Azkenim et Melechet Atargum, Vu Okra le Yehuda Alexandria. כולם שיפרו את התרגום, ואף ישמעו דברי כללה המאיימים על מי שמעז לשנות את הנוסח. לאחר מכן הוקרא את התרגום גם בפני המלך, אשר התרשם מחוכמתו והתפלה שדברי התורה לא מוזכרים בספרות היוונית. 72 זקנים חוזרים לירושלים בכבוד גדול ועם מתנות רבות עבורם ועבור אלעזר הכהן הגדול. C'est la lettre d'Aristéas à Philocrate. Qu'est-ce que c'est que ce livre? La lettre d'Aristée à Philocrate, vous ne vous y trompez pas, les deux c'est des juifs. Hein. Et Aristéas et Philocrate c'est des juifs. Et cette lettre est tout simplement le rapport de ce qu'on appelle la Septuaginta, la Septante, la traduction de la Torah en grec. Okay, ça se, donc le livre Y d'Aristéas, c'est ce qui relate les faits. comment les juifs à Alexandrie, ils ont trouvé ça, machin, ça. La traduction de la Torah en grec. Maintenant, la traduction de la Torah en grec, c'est quand? Eh bien, nous dit la Gemara dans ma Maseret Megillah, « Ukshesimu et melechet atabum, bechet betevet, yarat chosher laolam shlosha yemin. » Les ténèbres se sont abattues sur le monde 3 jours, donc le 8, le 9 et le 10 Tevet. En d'autres termes, la deuxième raison, en mode déchronologique, pourquoi on jeûne le 10 Tevet, c'est à cause de la traduction de la Torah en grec. Et la première raison historique de pourquoi on jeûne le 10 Tevet, eh bien, revenez cette fois à la source numéro 4. Vayi bishnat ha-teshi'it le-molcho. בחודש העשירי בעשור לחודש בא נבוכדנצר מלך בבל ובכל חילו על ירושלים ויחן עליה ויבנו עליה דייק סביב. Le 10 Tevet, c'est le début du siège de Jérusalem. À l'époque du premier temple, en moins 586. Ok? Donc récapitulons. Trois raisons pour le 10 Tevet. Moins 586, le début du siège de Jérusalem. Aux alentours des années, on va dire, moins 250, la traduction de la Torah en grec, et en 1951, Yom HaKadosh Hakelel. D'accord? Bon. Mais ça n'indique rien du tout. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Et je ne sais pas pourquoi ce jeûne est si important. Et quel est le lien, Bichlal, entre ces trois événements? Vous allez me dire, les deux premiers, c'est l'événement qui s'est passé à ce moment-là. Sauf que le troisième événement me fait dire que les deux premiers ne sont pas anodins. Dans la mesure où les rabbinim ont décidé d'aller prendre le 10 Tevet pour en faire Yom HaKadosh HaKlali, c'est qu'ils veulent m'enseigner quelque chose et c'est ça qu'il va falloir comprendre. Le début du siège de Jérusalem, il faut comprendre de quoi il s'agit. Vous m'avez dit la première brèche. Pourquoi ne pas me dire la destruction de Jérusalem et du Beth Amikdash? Parce que ça, c'est quand? Tisha B'Av. Non, dites-moi. À Tisha B'Av, je pleure. Pourquoi? Je pleure, comme on dit en hébreu, al chalav chez Nishpar. Je pleure sur du lait qui est déjà renversé. C'est-à-dire, je pleure sur c'est trop tard. Et je ne parle pas d'aujourd'hui seulement, mais je parle du mec qui habite à Jérusalem le 9 Av de l'an moins 586. Pourquoi il pleure? Parce qu'il ouvre les yeux, il voit que la ville brûle et que le Beth Amikdash brûle. C'est un peu tard pour se réveiller. Il n'y a plus rien à faire le 9 Av. Le 17 Tammuz, le Beth Amikdash et la ville ne brûlent pas encore. Qu'est-ce qui se passe? Les soldats babyloniens rentrent dans la ville. Ou les soldats romains, si on parle du deuxième temple. Et si vous allez sur le Talmud de Jérusalem, alors ce n'est pas le 17 Tammuz, c'est le 9 Tammuz. Comme Chané, c'est le moment où les soldats ennemis, ça y est, rentre dans la ville, les combats commencent dans la ville. Bon, ben là aussi, ça commence à être sacrément tard pour se réveiller. Le 10 Tevet, il ne s'est rien passé. Concrètement. C'est-à-dire, entre le 8 Av de l'année 586 et le 10 Av, est-ce que la situation a changé concrètement dans les faits dans la ville? Ben oui. Le 8 Av, il y a une ville et il y a un Beth Amikdash. Le 10 Av, il n'y a plus de ville, il n'y a plus de Beth Amikdash, tout est détruit. Il y a eu un changement, un chamboulement radical. Est-ce qu'il s'est passé, est-ce que quelque chose a changé dans la ville entre le 16 Tammuz et le 18 Tammuz? Ben oui, le 16 Tammuz, les soldats, les ennemis sont dehors et la vie à l'intérieur de la ville, elle n'est pas pâle, ça va. Et le 19, le 18 Tammuz, il y a du sang dans les rues par terre, tous les soldats massacrent les gens dans les rues. Il y a changé, quelque chose qui a changé. Seulement, est-ce que dans le quotidien des gens de Jérusalem, la vie a changé entre le 9 Tevet et le 11 Tevet? Bien non, rien n'a changé. Parce que quand on dit que c'est le début du siège, vous savez que ça prend du temps à mettre en place un siège. Le 10 Tevet, c'est le jour où Nebuchadnezzar est arrivé à Jérusalem. Ça a bien mis au moins un mois à finir le siège, à construire la palissade autour de Jérusalem, à mettre en place toutes les cohortes. Il n'y a pas de cohortes, c'est les Babyloniens, mais l'Oshadé. Ça prend du temps. Entre le 9 Tevet de cette année-là et le 11 Tevet, il n'y a rien qui a changé concrètement. Est-ce qu'à ce moment-là, les gens peuvent encore sortir de la ville?
Oui.
Oui. Ils peuvent sortir de la ville, s'enfuir. Ils peuvent, je sais pas moi, envoyer un message à une armée de mercenaires en disant on va vous payer tout ce que vous voulez, mais venez nous aider. On peut, je sais pas moi, organiser une grande chaîne de Tehillim pour que Dieu nous fasse un miracle. On peut décider de former nos soldats pour se préparer à la guerre. Il y a encore plein de choses à faire. On n'est pas encore devant le fait accompli, comme on sera au 17 Tammuz et encore plus à Tisha B'Av. Il en va de même pour la traduction de la Torah en grec. Si je devais faire une comparaison, ça ne colle pas au niveau des dates, hein, mais c'est une comparaison idéologique. Je dirais que le 9 Av, qui correspond à la destruction du Temple, par rapport à l'histoire grecque, ce serait le moment où Antiochus a mis en place le droit de cuissage, où les Juifs n'ont plus leur mot à dire, où ils sont persécutés dans les rues, des ailes, trop tard. Le 17 Tammuz, je mettrais ça en comparaison avec les premiers décrets, les premiers, si vous voulez, signes d'antisémitisme de l'Empire grec face aux Juifs. Il se passe quelque chose. Mais le dit Tevet, il s'est passé quoi? On a traduit la Torah en grec. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose de mal? Est-ce que le quotidien des Juifs a été chamboulé? Est-ce que l'antisémitisme a commencé à ce moment-là? Pas du tout. Pas du tout. Les gens, quand ils ont vu la traduction de la Torah en grec, ils ont pensé que c'était bien ou pas bien? Nos sages dans la Gemara, 500 ans plus tard, disent que c'est pas bien. Que les ténèbres se sont abattues sur le monde. Mais qu'est-ce qu'ils disent les gens sur place? On a lu dans la lettre d'Aristéas. Ils sont super contents. Attends, t'imagines si Macron il enlève son gilet jaune et il demande de nous faire traduire la Torah en français et de la mettre dans une place d'honneur à l'Élysée. On va pas être fiers? On va pas être contents? Non, j'espère qu'on sera pas contents. On va comprendre, à un moment donné. Mais à l'époque, ils étaient extrêmement contents. Ils pensaient que c'était un grand honneur qu'on faisait à la Torah. Maintenant, nous, avec du recul, on sait que ça, c'est la première étape de ce qui va amener Malchut Yavan à Recha. Je peux vous faire un cours sur Hanouka, vous savez ce qu'on a vécu à Hanouka. Comment ça a fini, cette histoire? Mais à l'époque du dit Tevet, à l'époque de la traduction de la Torah en grec, tout est encore open, comme on dit. Tout est encore ouvert. Il ne tient qu'à toi de voir qu'il s'agit ici d'un impérialisme culturel qui veut t'enlever ton identité d'Israël. Vous savez ce qu'on dit dans l'Anissim? Ça y est, on a fini. Et qu'est-ce qu'on a dit pendant 8 jours dans l'Anissim? La première phrase. Une phrase qui est un petit peu pas sympa. On dit « Bimem atityahu ben yohanan kohen gadol hashmonai uvanav keshe amda malchut yavan arecha'a » Et on se dit, c'est pas sympa. Parce que les Grecs ont régné sur le peuple juif pendant à peu près 180 ans. Sur ces 180 années, il y a eu 4 années de règne d'Antiochus IV qui a été pas sympa avec nous. Pour un roi, pendant 4 ans, qui a été pas cool, c'est pas sympa de dire que toute Malchut Yavan Arecha. Bien si, parce qu'en fait, Antiochus n'a été que l'expression méchante d'un projet beaucoup plus global. Et c'est quoi ce projet? On dit, Shamda Malchut Yavan Arecha la Mecha Israël. Mais quoi? Mais chaque fois Mi Toratecha. Les Ashkenazim, on se trompe. On dit les Shakecham ou les Ashkicham Toratecha. C'est-à-dire que ce que les Grecs voulaient nous faire, c'est nous faire oublier la Torah. C'est pas vrai. D'abord, ils voulaient nous faire oublier que la Torah chez BNP. La Torah chez Birtal, ils n'avaient aucun problème qu'on aille à la bibliothèque la lire, elle était écrite en grec. Mais ce qui est le vrai Nusar qu'on a retrouvé dans le Sidour de Rabbeinu Saadia Gaon, c'est les Ashkicham ou les Shakecham Mi Toratecha. Ce qui change tout. Ils ne voulaient pas nous faire oublier la Torah. Ils voulaient nous faire oublier de ta Torah. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'ils voulaient? Ils voulaient la Torah. Ils l'ont traduite en grec. Et qu'est-ce qu'ils ne voulaient pas?
Qu'ils ne
soient pas reliés à Israël. Ils voulaient pas nous. C'est-à-dire que c'est quoi l'impérialisme helléniste? Qu'est-ce qu'il voulait Alexandre? Tout le monde est grec. Tout le monde est grec. Il y en a qui le savent, il y en a qui ne le savent pas encore. On va leur demander. Il y a une... Il y a une rencontre qui est marquée dans la Gemara entre Shimon HaTzadik et Alexandre le Grand. Alors il y a toute l'histoire qui est marquée dans la Gemara. Mais il y a cette histoire, elle est relatée aussi chez les Grecs. Il y a un homme qui s'appelle Cléarchos, Cléarque en français, qui est un des élèves d'Aristote. Maintenant, il écrit un livre qui s'appelle Les Mémoires d'Aristote, il retrace tout ce qu'il a vécu avec son maître. Or, Aristote était le rabbin d'Alexandre. et l'accompagner dans un certain de ses voyages. Lorsqu'il arrive ici, Clark, il rapporte que Aristote a rencontré un juif du nom de Siméon. On sait qui ? Shimon. Quel Shimon il a rencontré ? Shimon HaTzadik. C'est lui le chef des juifs à ce moment-là. Et il raconte qu'ils ont parlé et qu'Aristote a été impressionné par la sagesse de ce juif. Et il a dit que Aristote était tellement impressionné, il a dit ce juif il est tellement sage qu'on pourrait penser qu'il est grec. Un grec, c'est tout le monde est grec. L'impérialisme culturel grec, qu'on retrouve aujourd'hui dans l'impérialisme occidental et américain, c'est de dire non, t'as non Israël. Tu es grec de confession juive à la limite. Mais tu es grec. Maintenant, ça marche dès le début, quand on veut traduire la Torah en grec. On veut prendre la Torah, et c'est ce qu'il dit le roi. Dans le livre d'Aristéas, il dit, le roi, il était impressionné, il dit, comment ça se fait qu'on c'était pas chez les Grecs, tout ça? Comment ça se fait? Pour l'instant, les Juifs, ils ont gardé ce livre, heureusement que je suis là, et je vais ramener ce livre dans la culture mondiale. Je vais la ramener à la bibliothèque. En d'autres termes, la traduction de la Torah en grec, il s'est encore rien passé. On n'a pas encore les décrets de on a interdit la Torah, Brit Mila, Rosh Chodesh, tout ce qu'il y a en Turcou, il va faire. Nahol, on n'y est pas encore. Mais c'est le début du processus. Et je viens maintenant à ce qui nous touche plus profondément parce que c'est ce qui est plus récent. Yom HaKadish HaKlali. Yom HaKadish HaKlali, la Shoah, ça nous a évidemment tous énormément touché. On soit Ashkenaz, c'est pas le problème, ça a touché le peuple juif. Après, chacun a son histoire particulière avec la Shoah. Mais une chose est sûre, maintenant, ça y est, la Shoah, elle a eu lieu. La seule chose qu'on peut décider après la Shoah, c'est d'essayer de tirer des leçons. Pas d'essayer de trouver des coupables, ça sert à rien parce qu'on n'est pas Dieu, mais d'essayer de, ok, bon, maintenant comment on se reconstruit après? En 1951, on est juste après, on a encore énormément la douleur de la Shoah. Et donc, on décide de faire ça le 10 Tevet. Et je retourne dans ma comparaison que j'ai fait tout à l'heure entre Tisha B'Av, destruction du temple, 17 Tammuz, brèche dans la muraille, et 10 Tevet, début du siège. Si je devais faire ces comparaisons avec la Shoah, alors je dirais que Tisha B'Av, dans l'univers de la Shoah, ça correspond à la date du 20 janvier 1942. Le 20 janvier 1942, c'est, comme vous le savez, la conférence de Wannsee, c'est-à-dire le jour où va être décidée et officialisée la solution finale. Ça y est. À ce moment-là, sont mis en place les camps de la mort, pas seulement les camps de travail, mais les camps de la mort, et la solution finale est mise en place, officiellement. On va dire comme ça, à partir du 20 janvier 1942, c'est trop tard. Le 17 Tammuz, je le ferai correspondre au 1er septembre 1939. C'est quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est le début de la guerre, ça y est, l'Allemagne envahit la Pologne. Bon, on va dire comme ça, un juif en Pologne, en 1942, il n'a pas beaucoup de chances de s'en sortir. Un juif en Pologne, en 1939, le 1er septembre, qui est toujours en Pologne à ce moment-là, ça va être chaud. Mais le 10 Tevet, à ce moment-là, je le fais correspondre à une autre date. Qui d'ailleurs est très proche d'être peut-être le 10 Tevet, ce qu'il faut vérifier. Le 30 janvier 1933. Qu'est-ce qui se passe le 30 janvier 1933 ? Il remonte au pouvoir. Maintenant, que les choses soient bien claires. Il se passe quelque chose entre le 29 août 1939 et le 2 septembre 1939. Le monde a changé. Avant, il n'y avait pas la guerre. Maintenant, c'est la guerre. Ça a changé. Mais est-ce que le quotidien des Juifs en Allemagne change entre le 29 janvier 1933 et le 1er février 1933 ? Choumdaba. Rien n'a changé. Je veux dire mieux que ça. Rien n'a changé le 1er février 1934. Rien n'a changé non plus le 1er février 1935. Ce n'est qu'à la fin de l'année 1935 qu'il va y avoir les lois de Nuremberg, et encore, rien n'a changé encore à ce moment-là. C'est que plus tard que vont arriver les premières lois antisémites, la nuit de cristal ne sera qu'en 1938. Et la Shoah, bien sûr, commencera à conflicter de manière effective en 1940. En 1933, le 1er janvier, rien n'a changé par rapport au 29 janvier. Tout est encore ouvert. Tu peux partir d'Allemagne à ce moment-là. Hitler ne t'empêche pas de partir d'Allemagne. Alors, ça va pas être facile, hein, c'est certain. Mais, et le problème, il est là. Le jeûne du dit évêque est tellement particulier parce qu'il ne vient pas pleurer sur du lait qui s'est déjà renversé. Le jeûne du dit évêque vient nous préparer à autre chose. Il y a quelques années, en 1933, mais pas en janvier, en septembre, se tient à 1,5 km d'ici, en septembre 1933, c'est-à-dire 9 mois après l'avènement de Hitler au pouvoir, mais 6 ans avant le début de la Deuxième Guerre mondiale, se tient à 1,5 km d'ici, dans la synagogue de la Khourva, dans la vieille ville, le grand rabbin de Eretz Israël, qui s'appelle le Rav Kook. Et il va faire un discours, parce qu'on est Rosh Hashanah, et que juste avant de sonner du shofar, comme dans toutes les synagogues du monde, tous les rabbins du monde, font un petit discours avant la sonnerie du shofar. Ce discours va être retranscrit après la fête, et va devenir un ma'amar qui s'appelle Ma'amar HaShofarot. Et je vous l'ai amené ici dans la source numéro 5, parce que ce que dit le Rav Kook est absolument invraisemblable. Invraisemblable de clairvoyance. Il dit le Rav Kook la chose suivante. Alors, comme vous êtes plus ou moins hébraïsant, je vais traduire, hein, mais on va d'abord y aller en hébreu, pour ceux qui comprennent le langage, pas de Molière. « Ve'aya ba'yom ha'u yittaka be'shofar gadol, uva'u ha'ovdim be'eretz ashur, anidachim be'eretz mitzrayim, ve'ishtachavu le'ar ha'shem be'rushalayim, le'ar ha'kodesh, sliha, le'ar ha'kodesh be'rushalayim, c'est un verset de Yishayahu. » Il dit qu'on attend qu'il y ait une sonnerie du shofar gadol, qui a quoi comme objectif? De ramener tout le monde à Jérusalem. C'est ça le but du jeu. Et également dans la tfila, on dit Eloheinu velo avotenu teka beshofar gadol lechemutem. Et là-dessus, le Rav Kook commence. Al shofar gadol shel geoula niba anavi. Le prophète nous a parlé d'un shofar gadol pour la geoula. Quoi? Ça veut dire qu'il faut que ça fasse 30 cm, 40 cm. C'est quoi shofar gadol? Le Rav Kook continue et dit comme ça. ולתקיעת שופר גדול אנו מתפללים. זה עושה תקע בשופר גדול. גדול דווקא. כי מדרגות שונות יש בשופר של גאולה. Il a différents degrés dans le שופר de la גאולה. יש שופר גדול, שופר בינוני, רגיל, ויש שופר קטן. Dans la גאולה, il y a trois sortes de שופר, un grand, un moyen, un petit. ושופרו של משיח, ce שופר de la גאולה, ce שופר du משיח, Nimshal el shofar kipshuto. On l'apprend du shofar. Shofar stam, qu'on utilise à Rosh Hashanah. El shofar shel Rosh Hashanah. Ha halakha kovat be shofar shel Rosh Hashanah, shalosh dargot. Là aussi, pour la corde que je vais prendre à Rosh Hashanah, il y a trois degrés, trois niveaux. Il y a un premier niveau, shofar shel Rosh Hashanah mitzvato be shel aïd. Le top, c'est d'avoir une corde de bélier. C'est le top. C'est shofar gadol shel Rosh Hashanah. Aval bediavad, quand la shofarot kshérim. C'est-à-dire, je n'ai pas trouvé de corne de bélier. La seule chose que j'ai sous la main, c'est une corne d'antilope. Je prends ma corne d'antilope. Zébediavad, j'aurais préféré un haïl, un bélier. Mais bon, quand la shofarot kshérim. Et la troisième dimension, c'est shofar mi behemat mea. C'est-à-dire, je n'ai pas de bélier sous la main, je n'ai pas d'antilope, je n'ai pas de vache. Le seul truc que j'ai à la maison, c'est un rhinocéros. Oui, ça arrive, hein. C'est jamais. Donc je prends ma corne de rhinocéros. Et là on me dit, Vechen shofar mi behemot shel avodah zara, shel goy, pasoul. Aval im taka bo, yatsa yideh chovato. Mais si j'ai pas autre chose, alors c'est pas bien, faut pas apprendre ça, mais si j'ai pas autre chose, et que j'ai sonné ma corne de rhinocéros, j'ai rempli la mitzvah de Rosh Hashanah. Ok? Umutar litkoa bechol shofar sheu im en shofar kasher. ובלבד שלא יברך עליו. Si j'ai une corne de rhinocéros, je peux faire la mitzvah avec, mais je ne fais pas la bracha dessus. Parce qu'on ne fait pas une bracha sur un truc tamé. D'accord? Adkan? Bessel. ודרגות אלה, המנויות בהלכה בשופר של ראש השנה, ces dimensions qui sont dans le שופר de la הלכה de ראש השנה, מקבילות הן לדרגות בשופר של גאולה. Elles sont à mettre en corrélation avec les différents niveaux de shofar de la Géoula. On a dit la Géoula, c'est quoi? C'est de revenir Be'ar Hashem Yerushalayim. Alors c'est quoi? Bien regardez. Ma'ola amito shel davar shofar shel Géoula. C'est quoi ce shofar de la Géoula? בשם שופר של משיח, הוא נפל לשופר של משיח. אנו מתכוונים להתעוררות ולדחיפה הגורמת לתחייתו ולגאולתו של עם ישראל. C'est quoi la chauffard de la Géoula? C'est ce qui amène les Juifs à se réveiller à la résurrection nationale du peuple juif. Et à Itorerut, ça sert à quoi ce réveil? C'est que les gens ils partent de Paris et qu'ils viennent à Jérusalem. Ça sert. C'est ça le chauffard de la Géoula, c'est à ça qu'on parle. Et là, nous dit le Rav Kook, attention. היה הייתה בישראל בזמנים שונים וישנם גם כיום בחלקים וביחידים מישראל ההתעוררות ורצון שמקורם בקדושה באמונה החזקה בהשם ובתורה בקדושת ישראל ותעודותו וברצון מקיימת רצון השם שהיא גאולת ישראל השלמה זוהי השופר הגדול והמעולה רצון עם להיגאל מתוך הרצון להעלה למלא את תעודותו הגדולה שאינה ניתנת להתמלא בהיותו גולה ועלוב. נגיד לו, הרב קוק, יתו שורי, על אפוקי ושורי, דז'ון כיסו רבי, או שופר גדול דו לגאולה. דז'ון כיסו רבי, פסקיזון אותנו להפסיד בו דודיו כאילו רדיל לך לך, פסקיזון קומחי כלגאולה דופן פלשוויף ספס פרלפי לרובניריסים, איסו רדיו, קום לרב קוק. Comme le Rav Kalischer, le Rav Gutmacher, comme plein de gens, les Témanim qui sont arrivés en masse parce qu'ils voulaient réaliser le projet divin, les élèves du Gaon de Vilna, les élèves du Baal Shem Tov, plein de gens qui sont venus. Et ces gens-là, ils ont compris que l'idéal du peuple juif ne peut pas être réalisé lorsqu'il est en exil et persécuté. Donc les gens, ils ont compris qu'à Kadosh Baruch Hu, il veut qu'on soit ici. C'est des gens qui ont écouté l'appel du Shofar Gadol. Ça m'a dit le Rav Kook. ויש שהרצון הקדוש נחלש. Il y a des gens qui n'entendent pas cet appel de Dieu. אין ההתלהבות הגדולה לרעיונות עליונים שבקדושה. Ils ne sont pas dans le trip. Tu vas à la Torah, ils ne connaissent pas. אבל נשאר לפחות הטבע האנושי הבריא. Mais il reste chez eux la nature bienveillante des gens normaux. C'est quoi les gens normaux? Il me dit, הטבע האנושי Abari, shegam hu mekoro bikdusha. Ce sens d'être normal, c'est aussi, ça prend sa source dans la sainteté. Et il te dit quoi? C'est quoi ce sens-là? Veteva enoshi barize mecholal ratzon tivi pashut beuma leakim et shiltona be'artza. C'est quoi cette volonté naturelle? C'est que les gens disent, j'ai envie d'avoir mon pays. Du nationalisme. Comment on appelle ça en Israël? Sionisme. Mais pas un sionisme. Torah, le sionisme laïque, que le Rav Kook qui vit à son époque. Il voit tous les pionniers qui sont en train d'arriver, qui ne sont pas religieux. Il dit ces gens-là, c'est parce qu'ils ont le ratson, la volonté naturelle d'un peuple qui veut redevenir un peuple. Et c'est très bien. Alors on dit le Rav Kook. Chez Gamon, mes grands visions, mettez-moi une chiba risée, mais qu'on est le ratson qui vit, pas chute, mais ouma, la kim et chiltona barza, la kum ou les ch'tacher, les chiot, chaye, chofesh, choutim, que chola amin. רצון טבעי זה מתוך הרגשה לאומית טבעית, זהו השופר הבינוני הרגיל, המצוי בכל מקום. Voilà, ça c'est la traditionniste laïque, c'est le chauffard benoni. Et on le trouve partout, dit le Rav Kook. Et il ajoute, אף הוא שופר כשר. On fait la bracha, היום העצמאות. C'est le chauffard כשר. אף על פי שמצווה בראשון, יותר מאשר בו. On préfère. Une alia qui est portée par la Torah, bien sûr. Mais c'est bien aussi ça. Ok. Bediavat kol ha-shofarot kshe. Et là, le Rav Kook, ça prend ce qui nous intéresse. Je vous rappelle qu'il dit ça en septembre 1933. Rien n'a changé pour les Juifs d'Allemagne et d'Europe. C'est sûr que tout le monde sait que Hitler, il n'est pas fan des Juifs. C'est-à-dire, il a déjà écrit Mein Kampf et il a été élu sur un programme foncièrement antisémite. Mais on ne parle pas encore d'exécuter tous les Juifs. À ce moment-là, le Rav Kook nous dit comme ça. Oulam yesh gam darga shlishit beshofar shel Mashiach. Ve'af hi magbila beshofar shel Rosh Hashanah, shofar katan, pasul, shetokim bo be'echach, quand on n'a pas le choix, im en shofar kasher ben imtza, im afsa et la'avut ha-kodesh, ve'ratzon ha-geula ha-na'aleh ha-novea mimena, ve'im gam ha-argasha ha-enoshit le'umit ve'tivit ve'ratzon shel chaye le'om be'kavod, gam hu, lo po, gam hem afsu, אם אי אפשר לתקוע בשופר כשר לגאולה, באים אויבי ישראל ותוקים באוזנינו לגאולה. Si on n'entend ni le premier chauffard, le grand, ni le moyen, viennent les ennemis d'Israël et sonnent le petit chauffard. Attention. Vetokim Rosnenu le Gioula. Em machrichim otanu lishmoa kol chauffard. Ils nous obligent, nos ennemis, d'entendre le chauffard. Em matriim umar ishim beosnenu ve einam notnim lanu manoach bagola. Ils sonnent tellement fort qu'ils ne nous laissent plus aucun endroit pour se reposer en galout. On est 6 ans avant la Deuxième Guerre mondiale. On est 7 ans avant le début des exécutions. On est 9 ans avant la solution finale. Et le plus fou, c'est qu'il le nomme le chauffard Katan. Et il dit « Chauffard shel chayat me'an efach le chauffaro shel Mashiach » Amalek, à son époque, Patliora, à l'époque de l'Inquisition. Et aujourd'hui, il le nomme. Hitler. Verhoulé. Mitorerim, meorerim, sikha le geoula. Umi shelo shama kol shofar rishon ve af lo le kol shofar hasheni haragil lo ratza lishmoa ki oznav nit ne'etmu u yishma le kol shofar tame pasul be'al kocho yishma. Et il dit ça, encore une fois, 6 ans avant le début de la guerre. Est-ce que quelqu'un l'a écouté ? Non. Ve'afu yetzei dechova. Gam leumiut zo shel hashot, shel tzarat ha-yehudim. Gam yed, gam ba yesh min ha-geula. Ulam, al shofar ze, ein levarech. On ne fait pas la bracha sur un truc comme ça. Parce que, al divrei klala, kol sheu min klala, ein mevarchim alam. Anu mitpalelim, שלא יביאנו הקדוש ברוך הוא עוד לידי שמיעת השופר הפסול והתמה בעל כוחנו. ואף לשופר הפשוט הבינוני, החילוני כמעט, איננו מתגעגעים ביותר. זה. אנו תפילה עתקה ושופר גדול לחירותנו, שופר שבא מתוך עומק קדושתה של נשמת ישראל, מתוך קודש קודשנו, ואז תהיה הגאולה השלמה. Le Rav Kook parle 6 ans avant le début du Sitrotar. Au moment où le Rav Kook parle, c'est pas trop tard. C'est pas trop tard. Mais après, c'est trop tard. On dit la Mishnah dans la source numéro 6, Ezeu Chacham. Le jeûne de Tisha B'Av, tu pleures parce qu'il y a eu, on t'a fait très très mal. C'est trop tard, tu as eu mal, et donc on va chaque année pleurer sur cette douleur qu'on t'a amenée. Et cette Tammuz aussi, on pleure un peu moins, mais on pleure aussi sur quelque chose qui nous est arrivé de grave. Le jeûne de Guédalia, pareil. On jeûne parce qu'il y a eu un acte dramatique qui s'est passé. Le jeûne d'Esther, il est complètement différent. C'est un jeûne préventif. C'est une tfila, en fait. C'est une grande tfila, le jeûne d'Esther. Le jeûne du dit Tevet, c'est pas une tfila. Il a commencé à se passer un truc, seulement tu le vois pas. Et on te dit, ouvre les yeux. Ouvre les yeux parce qu'il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Il y a déjà un truc qui est en place. Il y a déjà un processus. Mais il n'est pas trop tard. Et tout ça est en lien direct avec la fin du livre de Bereshit, avec notre parasha. Eh oui. Parce que notre parasha, c'est la fin du game. Ça y est. Yosef s'est dévoilé à tout le monde. À Koltov, seulement Yosef va dire sans vergogne, dites à papa de venir. Et venez tous. Quoi, il n'aurait pas pu continuer à les nourrir en Eretz Israël ? Quoi, il y avait la famille. D'accord, mais en Égypte, il n'y a pas la famille. Il ne pouvait pas continuer à envoyer chaque mois des containers de blé en Eretz Canaan pour ses frères et pour son père ? Il était obligé de les faire venir à côté de lui ?
Tandis que l'exil était nécessaire.
Alors, ben ça d'accord. L'exil était nécessaire. Mais Akadosh Baruch Hu aurait pu se débrouiller comme il veut pour nous emmener en exil. Ce qui n'était pas nécessaire, c'était quoi ? Que tu fais l'exil. Et il est là tout le problème de la paracha de cette semaine. Venez, regardez, on arrive donc dans notre paracha. Lorsque finalement Yaakov et Yosef se retrouvent, après combien de temps ? 22 ans. 23 ans même. Il a 17 ans quand il est jeté dans le puits. Il a 30 ans quand il est sorti de Panéar. Donc, faites le calcul. Ça fait plus de 22 ans, 23 ans qu'il n'a pas vu papa. Ça y est, enfin, retrouvaille. Et la Torah me dit que là, Yosef a eu une réaction normale. Ou bachal, ça va. Normal. On retrouve son papounet. Normal. Par contre, on nous dit que Yaakov, c'est marqué ou Bachal Tzavaro. Rachid demande, Chazak demande, et quoi Yaakov? Vous n'avez pas pleuré? Quand il dit, la Torah, il ne dit pas, et tous les deux, ils ont pleuré. Ben non, il semblerait que Yaakov, il était Ashkenaz, Ashkenaz. Pas pleuré.
Yankel, ici.
C'est Yankel. Alors non, il trouve qu'il y a autre chose. On nous dit ici, Aval Yaakov, par la source numéro 9, Aval Yaakov, l'on a fait le Tzavaré Yosef, velon nishkon, ve'amrou rabotenu, pourquoi est-ce qu'il a appelé? Il dit pas moi, comme Yosef, ah papa, Yosef. Il y a Ashkenaz, on a dit. Pourquoi il n'a pas fait ça? Non. Shaya Kore et Shema. Qu'est-ce que ça veut dire, cette histoire? Il était en train de faire le Shema, excuse-moi. Shema. Alors, de deux choses, lui. Soit c'est l'heure du Shema. C'est possible que ce soit l'heure du Shema. Mais à ce moment-là, Yosef aussi doit dire le Shema. Donc, c'est un cas où Yaakov il dit Shema, mais Yosef il ne doit pas dire Shema. C'est quoi ce cas? Quand est-ce qu'on dit le Shema?
Il pense qu'il va mourir.
Il pense qu'il va mourir? Il en a encore pour 17 ans là, à tenir.
Non, il le pense, mais il ne le sait pas.
Alors, quand est-ce qu'on doit dire le schéma?
Le matin.
Le soir.
Le soir.
Et quand l'autre?
À la mita.
À la mita, c'est pourquoi? C'est parce que tu dois dire le schéma avant de mourir. Et vu que tu ne sais pas quand tu vas mourir, ben chaque soir, tu dis on ne sait jamais, c'est très ashkenaz comme alakha, on ne sait jamais, donc je fais le schéma. Maintenant, pourquoi est-ce que tu dois faire le schéma avant de mourir? Parce que en lecha beshoch becha, parce que dans la Torah, il y a marqué beshoch becha ou vkumecha. Donc, il n'y a pas de plus grand beshoch becha que quand tu vas mourir. Et tu t'allonges pour de vrai. Donc, de la même façon, on dit aussi beshoch becha ou vkumecha. Donc, il n'y a pas de plus grand bekumecha que quoi? Que triat ameti. N'oubliez pas quand vous allez ressusciter. N'oubliez pas le schéma.
Bien sûr.
Quand on ressuscite, il faut dire le schéma. C'est triat ameti, il faut dire le schéma. Arshav, dans notre histoire, qui a ressuscité? Alors, d'abord, dans l'esprit de Yaakov, Yosef. Parce que lui, pendant toutes ces années, il pensait que Yosef était mort. Donc pour lui, Yaakov, Yosef ressuscite. Seulement, Yosef, lui, il savait qu'il n'était pas mort. Donc pour lui, il ne ressent pas qu'il ressuscite. Il a toujours été vivant, il se savait vivant. Donc c'est normal que ce soit que Yaakov qui fasse le schéma et pas Yosef. Il y a une dissonance énorme entre Yaakov et Yosef. Et cette dissonance va amener Yaakov à penser que ce qui est en train de se passer maintenant, c'est Tov. J'ai retrouvé Yosef. Ça y est, le peuple d'Israël est enfin réuni. Finalement, pendant 23 ans, le peuple juif était séparé. Il manquait quelqu'un. Maintenant, on est enfin réunis. Ah ben, les faux. Baguette. Et vous allez me dire, il n'y a pas le choix, il y a la famine. À quoi le céder? Mais il y a juste un truc qui me dérange. Il y a la famille. Combien de temps a duré la famille?
7 ans.
Combien de temps a duré la famille?
2 ans.
Alors, elle devait durer 7 ans. Grâce au mérite de Yaakov qui est arrivé en Égypte, ça a duré que 5 ans. Allez, 5 ans. Maintenant, il faut du temps après pour se remettre d'une famille. Allez, combien de temps il faut se remettre? Allez, encore 5 ans. Voilà. Gratis. Alors, dis-moi, après 10 ans, pourquoi Yaakov n'est pas reparti en Israël? Alors vous allez me dire, Yaakov, il est peut-être un peu vieux, vous savez, il est tout jeune, peut-être qu'il n'a pas les forces de repartir. Mais Yehuda, Lévi, pourquoi le peuple juif n'est pas rentré? Allez, pourquoi ils sont venus en Égypte? Ils le disent. À cause de quoi? À cause de quoi ils restent? À cause de quoi ils viennent en Égypte?
À la famine.
À la famine. Une fois la famine est finie, on repart. Oh, bon.
Bien,
Rotaï, le dernier verset de la paracha de Vaygash, de notre paracha. Je ne vous l'ai pas mis dans la feuille, je ne sais même pas pourquoi, mais je vais le dire béalvé. C'est un verset qui me reste ancré tellement il est fort. Le dernier verset de la paracha de Vaygash nous dit « Vayeshev Israël be'eretz Mitzrayim be'eretz Goshen vayachazuba vayifru vayirbu me'od » Je traduis. Vayeshev Israël, je comprends, Be'eretz Mitzrayim ou Be'eretz Goshen? C'est comme si tu me disais, et Israël s'est installé dans le pays de la France ou dans le pays de Paris. Goshen, c'est dans quel pays? En Égypte. Alors si tu m'as dit Vayeshev Israël Be'eret Mitzrayim Be'Goshen, c'est quoi Be'eret Mitzrayim Be'eret Goshen? C'est un autre pays? Quel? Non, pas officiellement.
Mais quand t'arrivais à Goshen, t'avais l'impression d'être dans un autre pays complètement. Il y avait des restos cachés partout. T'étais marqué en yiddish, c'est la scandale, on dit. Il y avait des chivots, des pâtés midrash. Il y avait tous les gens qui se baladaient en kippa dans la rue. On pouvait pas se balader au Caire avec des kippot dans la rue, donc c'est bizarre. Mais là-bas, t'avais bien. Toi, elle était là-bas. En plus, Yaakov, il avait envoyé Yehuda en avant pour qu'il mette un bête midrash en place. Des chiourim, d'afiomi tout le temps. Vayeshev Israël, be'eretz Mitzrayim, be'eretz Goshen. Vayeachazuba. C'est quoi Vayeachazuba? Ils en ont pris possession. Aval, et j'aime le citer ici, parce qu'il mérite, dans la source numéro 12, ceux qui ont la feuille, je cite mon oncle, mon tonton. Il a écrit un commentaire avec les autres, parce qu'il est rabbin en France, et à l'époque du Rav Citruc, ils avaient fait, avec tous les aumôniers, les rabbins aumôniers en France, ils avaient fait un petit recueil de livret Torah sur la paracha pour les différents soldats juifs de l'armée française. Il m'en a fait parvenir un, ça s'appelle Tzva Marom, le livre. Et chaque aumônier, il a pris une paracha. Il a fait 2-3 pages comme ça sur une paracha. Et donc, il a pris la paracha de Vayechi, mais en fait, il n'explique pas la paracha de Vayechi, il explique le dernier verset de la paracha de Vayigash parce qu'il est collé à la paracha de Vayechi. Il n'y a pas d'espace entre la fin de Vayigash et le début de Vayechi. Et il explique par rapport à ce mot-là, Vayeachazuba, ça veut dire qu'ils en ont pris possession au sens littéral. Mais mon oncle, il dit. Qui a mis la vaille à Chazouba, en perusha rak le itnachel sham. Ella, gam lipol ou le idabek le sham. Comme il y a marqué, à propos d'Abraham et de la Kedat Yitzhak, il a vu le bélier, qu'est-ce qui lui arrivait? Ne'echaz basvach bekarna. Il était embourbé dans le buisson, le bélier. De la même façon, les Bnei Israël, vaille à Chazouba, se sont embourbés là-bas en Égypte. Ils sont embourbés. Ils ont kiffé. Ils ont kiffé. Mais vas-y, ils ont kiffé. Ils ont kiffé. À tel point qu'ils n'ont pas voulu repartir en Eretz Canaan. Ce dernier verset de la paracha, le Kli Yakar va le commenter. Je vous ai amené le commentaire du Kli Yakar dans la source numéro 14. C'est Zekashé Meod. Zekashé Meod a toute ressemblance avec un cas actuel. Ce retour en fortune involontaire, bien évidemment. Le Kliyakar parle il y a 500 ans. Et il dit comme ça. Et quand on sait ce qu'on vient d'étudier sur le dit Tevet et sur la Shoah, ça prend une valeur encore plus forte. Le Kliyakar dit comme ça. Kol pasuk ze be'ashmat b'nei Israël omedaber. Ce verset vient accuser les b'nei Israël. Waouh. Qui en bikshu liot toshavim bemakom shenigzar alehem gerut. Dieu il avait dit à Abraham qui guéri yezaracha be'eretz lo lahem. C'est quoi la différence? Nous en hébreu moderne on ne comprend pas, c'est tout pareil. Ou du moins c'est l'inverse. Mais la gour en hébreu moderne ça veut dire quoi? Habiter. Sauf que en vrai hébreu, la gour c'est étranger, c'est résident temporaire. T'as une carte de séjour, un visa. Et comme on dit être résident permanent, Toshav, la chevet. Et donc il dit, Vayeshev Israël, il a marqué dans le pasouk. En bikshu liot Toshavim, dans un endroit où il devait être simplement guérin. Attends, le Kliyakar nous dit, Velo kachamou le paro. Quand les frères de Yosef sont arrivés chez Pharaon, et Pharaon leur a demandé pourquoi vous êtes là, ils lui ont dit, la gourba aretzban. On est venu temporairement. Pourquoi? Ben pourquoi ils sont venus?
La famille.
La famille. Mais c'est temporaire. Une fois que la finie, elle finit, on s'en va pas. Aval kolkaf nishtake usham, ou en hébreu plus moderne, aval kolkaf kifu sham, she'ad shelo ratsu latset mi mitzrayim. On reçoit la question à Pessah, pourquoi est-ce qu'on est... Parce qu'on est descendu en Égypte. Ah, frère Joseph, machin, non? Mais pourquoi est-ce qu'on n'est pas reparti d'Égypte? Parce que quand on est à Pessah et qu'on lit Pharaon qui nous persécute, on se dit, bah, on ne peut pas, on nous persécute.
Sauf que le pharaon qui persécute, c'est dans super longtemps. Dans super longtemps. Là, le pharaon de Joseph, il persécute personne. Il est même pro-sémite.
Au contraire.
Hachelorazu, la tzed mitzraim. Et là, le Kriyakar termine en disant quelque chose de terrible. Hachéoutzrach, akadosh baoru, la tzilam beyat razaka. En français, jusqu'à ce que Pharaon était, et jusqu'à ce que Dieu était obligé d'envoyer Pharaon. Mais il ne voulait pas sortir. Tant qu'on ne leur mettait pas le couteau sous la gorge, ils ne voulaient pas sortir. Il était obligé de leur mettre le couteau sous la gorge pour qu'ils sortent. Donc Yakar termine avec une phrase terrible. De Elou chez Loratsu Latset, Metou Beshlochet Yemea Afela. Et finalement, ceux qui n'ont pas voulu sortir d'Égypte ont disparu dans l'histoire. À l'époque de Yosef, à la fin de la famille, il n'est absolument pas trop tard pour les Yigaël. Il n'est pas trop tard pour prendre ses valises, prendre ce que tu as à prendre de l'Égypte, parce qu'il y a des nitsotsot, des... Mais tu peux rentrer en tapis rouge. Tu peux rentrer comme il faut. Et comprendre qu'Akadosh Baruch Hu t'a demandé de rentrer. Ou alors tu peux attendre. Tu peux attendre d'abord que Vayakom Melech Hadash al Mitzrayim Asher lo yada et Yosef, qui commence à dire à son peuple, Aranitra Kemalo. On commence à mettre en place des lois anti-juives. Mais là encore, tu peux encore t'en sortir à ce moment-là. Ou alors tu dis, mais ça n'ira pas plus loin. Et tu attends que Pharaon. Évidotanou, Avoda me parer, Avoda me chat. À ce moment-là, tu ne peux plus rien faire. Le dit Tevet, c'est le moment où tu jeûnes parce que ce n'est pas encore trop tard. Parce que tu dois ouvrir les yeux et te dire, oh, on a dévié, viens, on revient. Viens, on rouvre les yeux. Et on se rend compte que c'est pas trop tard. Et on change de kivoun. C'est ça le DTV. Pourquoi c'est devenu le Yom HaKadish HaKlali? Mais parce que particulièrement après la Shoah, la Rabbanut HaRashit d'Israël a dit, ok, maintenant on se réveille. On comprend que c'est pas la peine de réattendre que la situation soit terrible. Baruch HaShem qu'aujourd'hui il y a plein de plans pour l'Alia, machin, et Kalita, et c'est super. Mais il faut attendre vraiment d'être en situation de je fais mon Alia parce que j'ai subi une agression à Paris. On est obligé d'attendre ça. On est obligé d'attendre le 17 Tammuz, voir Chas V'Shalom Tisha B'Av. On ne peut pas comprendre avec le dit Tevet. Alors qu'est-ce qui nous permet de comprendre? Bien, ce qui nous permet de comprendre, c'est le secret de la réussite du Shofar Gadol. C'est quoi le secret de la réussite du Shofar Gadol? Le secret de la réussite, il se trouve ici dans la source numéro 11. Yehuda, au début de la paracha, comment est-ce qu'il réussit à convaincre Yosef que non, il ne peut pas garder Binyamin? Vous connaissez, dans la fin de la paracha de Miketz, il y avait l'histoire où Yosef il a planqué sa coupe magique dans le sac de Binyamin et il veut garder Binyamin. Et Yehuda, il dit à Yosef, t'as pas compris, je suis obligé de ramener Binyamin. Point. Tu peux me garder moi, tu fais ce que tu veux, mais je suis obligé de ramener Binyamin. Pourquoi? Il dit, Ve'ata kevoi el avadecha avi ve'anar einenu itanu. C'est pas possible, il va mourir. Pourquoi? Ve'nafsho kshura benafsho. Anefeshelmi, benefeshelmi. Anefeshel Yaakov kshura benafsho Binyamin. En d'autres termes, où se trouve Am Israël? Qui est le garant de Am Israël? Binyamin. Là où se trouve Binyamin, se trouve Nishmat Yaakov, Nishmat Israël. Mais c'est qui Binyamin?
Il
ne
sait pas comment se dernier.
Plus que ça.
Il se
lit. Ça va, oui. Il ne s'est pas prosterné. C'est lui qui est né ici. C'est lui qui n'a pas connu l'exil. C'est lui qui est l'enfant de l'avenir, l'enfant du retour, l'enfant de la Géoula. Comment est-ce qu'on peut survivre à l'exil en étant kachour les Binyamin? Si on est kachour les Binyamin, alors, même en exil, on sait qu'on a toujours le moyen d'entendre Shofar Gadol qui nous ramènera à la maison. C'est pour ça que lorsque Yehuda revient avec Binyamin et qu'il lui raconte tout ce qui s'est passé et qu'il lui dit, Yosef, il a dit, viens, on rentre, viens, on va chez lui. Alors Yosef, Yaakov a dit à Yehuda, pars devant, Léorot les Fanav Goshna. Chazal nous dit pour qu'ils mettent en place là-bas un Beit Talmud. C'est-à-dire, quelle Torah on va enseigner à Goshen? Torah Yehuda. Torah Yehuda chez Evin, qui a compris qu'est-ce que c'est Binyamin. Et il y en a un autre qui a compris. Yosef. Yosef a compris que tout ce qui était en train de se jouer, c'est à Géoula. Vous savez comment il l'a compris? Je terminerai par là, par une explication incroyable que ramène le Rav Menachem Mendel Kasher. Le Rav Kasher dans la Torah Shlema. Vous savez qui c'est le Rav Menachem Mendel Kasher? C'est peut-être un des plus grands géants de l'univers. Il n'est pas tellement connu. Hein. Rav Menachem Mendel Kasher, il a pris sur lui de faire un projet qui s'appelle Torah Shlema. C'est pas très long hein, comme livre, hein. C'est 64 volumes. C'est-à-dire, il y a tout dedans. Il y a tout. C'est pas comme l'encyclopédie talmudique, où il y a 100 personnes qui ont travaillé ensemble pour l'encyclopédie. Non, le Rav Menachem Mendel Kasher, c'est tout seul. Et il y a tout. Tout. C'est-à-dire, si tu as entendu parler d'un vieux texte du 12e siècle, machin, tu peux être sûr qu'il est là-bas. Il a tout compilé, tout ramené. Et en l'occurrence, il ramène un Midrash Thémani incroyable. Menachem Mendel, ce n'est pas vraiment un Thémani de base. Mais il ramène un Midrash Thémani incroyable. Comment est-ce que Yosef fait dire à Yaakov que c'est bien lui qui lui demande de venir en Égypte? Alors Chazal nous explique le coup classique, il a envoyé des Hagalot. Et Chazal nous dit pourquoi, hein? Parce que juste avant qu'ils partent, qu'ils se fassent jeter dans le puits, machin, la dernière sougia qu'ils étudiaient ensemble, papa, Yaakov et petit Yosef, c'était voilà, l'histoire de Egla à Arufa. Donc il fait un jeu de mots, Egla à Gala. Ça, tout à fait, c'est ce que dit Chazal. Bon, la malo. Le Rav Menachem Mendel Kasher, il amène dans sa Torah Shlema un Midrash Thémani incroyable. Il n'est pas du tout. Ce n'est pas une question de Egla Arufa. Il dit que Yosef, il a envoyé à Yaakov le signe qu'il n'a pas oublié de quoi ils étaient en train de parler. De quoi ils étaient en train de parler? De la Géoula. Il y a 23 ans, c'était quoi la dernière Sougia qu'ils ont étudié, Yaakov et Yosef, Israël, Vemashiach ben Yosef? Qu'est-ce qu'ils ont étudié? À Géoula. Et comment est-ce que Yosef voulait lui expliquer que j'ai pas oublié, que je sais quel est le but final de tout ça? Il lui a envoyé des Hagalot. Quel rapport avec la Géoula? Ba'agala ovizman karim. Ba'agala ovizman karim. Il a envoyé des Hagalot. Tout le monde sait que c'est de cela qu'on parle. De la Géoula. Parashat Vayigash est le début de l'arrivée en exil de tout le peuple juif. C'est Dafka dans cette paracha qui met en place l'idéal de la Géoula. Nachon, on est descendu en exil, n'oubliez jamais qu'il va falloir en sortir de cet exil. Et pour en sortir, tu auras trois options. Soit Shofar Gadol, soit Shofar Benoni, soit Shofar Katan. Ça dépend de qui?
De nous.
Ça dépend de toi. Et c'est pour ça que le dit Evet va tomber toujours, soit juste avant, soit juste après, par Parashat Vayigash. Le dit Evet vient te dire, aujourd'hui tu jeûnes, tu sais pourquoi? Pour ne plus attendre le Shofar Katan. Même pas le Shofar Benoni. Réveille-toi au Shofar Gadol, pour que tous ensemble on puisse monter sur une charrette, la alot, le har Hashem, Birushalayim, ba'agala, ou bisman kariv, amen.